Avec vous, Catherine Potel, autour des hebdomadaires et des journaux du dimanche et à la une, la première page d'histoire du 21e siècle.
Et cette page d'histoire, c'est celle que nous avons vécue ces 25 dernières années. Car comme nous le signale le Nouvel Obs, avec 2024, ce n'est pas seulement une année qui s'achève, c'est le premier quart de ce siècle qui touche à sa fin. Le temps d'une génération, l'humanité a fait son entrée dans le troisième millénaire. Et tout est allé si vite qu'il n'est pas inutile de se retourner pour examiner le chemin parcouru. Et à feuilleter les pages du Nouvel Obs, on est quelque peu pris de vertige. Ce premier quart de siècle a d'abord été marqué au fer rouge par le 11 septembre 2001 qui a terrorisé l'Amérique et le monde. Puis il y eut l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, l'avènement de Vladimir Poutine, les printemps arabes, Fukushima, les attentats de 2015 en France, le Brexit, le Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et plus près de nous le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y eut aussi la vague MeToo, l'avènement des réseaux sociaux et des smartphones.
Et ce n'est pas tout, rappelle le Nouvel Obs.
On se souviendra enfin, ajoute l'hebdomadaire, que nombre d'humains étaient tenaillés par une angoisse profonde, celle de la disparition possible de notre humanité, éradiquée de la surface d'une planète qu'elle-même a rendue invivable. De là à penser que c'était mieux avant et que le monde d'hier était plus enviable, il n'y a qu'un pas que le Nouvel Obs se garde de franchir. Bien sûr, nous devons aujourd'hui affronter nombre d'épreuves, nous dit-il, mais il faut le faire sans pleurer sur la mort d'un temps qui ne reviendra pas, en regardant l'époque comme elle est pour en comprendre les enjeux, en déjouer les pièges et y dénicher les motifs d'espoir.
Des motifs d'espoir qui font parfois défaut, Catherine.
C'est ce que l'on se dit en parcourant les articles de la presse du dimanche au sujet de Mayotte, 9 jours après le passage du cyclone Chido. C'est la ruée vers l'eau, nous dit la Tribune dimanche, alors que l'eau potable fait encore souvent défaut. L'envoyé spécial du journal a rencontré une femme dont la cabane a été détruite et qui dort avec ses 4 enfants sous un toit de fortune en tôle soutenu par 2 barres de fer. Sur le sol boueux, poursuit la Tribune dimanche, elle désigne ce qui lui reste pour survivre. Une eau saumâtre récupérée dans une flaque et un sac de riz moisi par l'humidité. Mes enfants pleurent tout le temps, se plaint cette mahoraise. Ils me disent « Maman, on a faim, mais il n'y a plus rien. On a besoin d'aide. » Notons que dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau assure que 90% de la population sera reliée à l'eau courante d'ici ce soir.
Le cyclone Chido, catastrophe au bilan toujours indéterminé.
Le bilan officiel est de 35 morts, mais on sait que la réalité est tout autre. Où sont ceux qui manquent à l'appel, se demande aujourd'hui en France dimanche, qui poursuit. Les services de l'État l'admettent, le nombre de morts comptabilisés jusqu'ici n'est pas en adéquation avec la réalité des 100 000 personnes qui vivent dans un habitat précaire. Habitat précaire, un euphémisme pour désigner les bidonvilles où les clandestins pourraient avoir payé un lourd tribut, estime le journal. Mais faire le recensement des morts semble impossible. Saïd Omar Ouali, sénateur de Mayotte, s'indigne. Il n'y a pas eu jusqu'ici de recherche des survivants dans les décombres. Comme c'est le cas dans toutes les catastrophes, je n'ai jamais vu ça. Les gens ne se sont pas évaporés, ajoute-t-il. S'ils ne sont ni dans les hôpitaux, ni dans les centres de refuge, ni dans les familles, où sont-ils? L'élu mahorais semble penser que nombre de victimes sont encore prisonnière des décombres. Il évoque aussi les morts non déclarées.
Et puis Catherine, la fin de ce premier quart de siècle est également marquée par la situation en Syrie.
Quelques jours après la chute de Bachar el-Assad, le point s'est rendu à Palmyre, oasis historique dans le centre du pays qui a, nous rappelle l'hebdomadaire, subi la terrible répression du régime d'Assad, la loi des djihadistes de Daesh, mais aussi l'occupation des soldats russes et des miliciens chiites, iraniens, irakiens et afghans. Puis récemment, les bombardements de l'aviation israélienne sur un quartier proche du siège des services de renseignement. Les envoyés spéciaux du point ont assisté à l'arrivée des rebelles syriens, originaires de Palmyre, qui célèbrent en fanfare leur retour au bercail. Rebelles qui doivent désormais s'entendre avec les hommes d'Al-Julani, le nouvel homme fort de Damas. L'avenir est incertain. À Palmyre, plus encore qu'ailleurs, conclut le point, les lignes sont mouvantes.
Catherine Potet, merci beaucoup. Bon dimanche.